Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Évangile et liberté est le mensuel du protestantisme libéral. Évangile et liberté, ou encore penser, critiquer et croire en toute liberté. Deux numéros d'Évangile et liberté seront envoyés gratuitement à tous ceux qui en feront la demande au numéro de téléphone suivant 09 53 43 45 71. Pour cette émission, je vous propose, auditeurs, auditrices, une conversation avec André Gounel. André Gounel, que les lecteurs d'Évangile et Liberté connaissent bien. André Gounel, ce théologien du protestantisme libéral. C'est autour de ce dernier livre qu'a lieu cet échange, ou plutôt cet enseignement complémentaire à son dernier livre, Dieu encore et toujours, paru en 2020 aux éditions Fan d'Irène. Le secteur des livres de religion et d'ésotérisme représente un marché de 42 millions d'euros. C'est le 10e segment éditorial en valeur sur les 13 segments éditoriaux identifiés par le Syndicat national de l'édition. Dans cette catégorie, les livres d'ésotérisme et d'occultisme sont en vente croissante, tandis que les ventes des livres religieux sont stables. André Gounel, qui publie aujourd'hui « Dieu encore et toujours » aux éditions Fan d'Irène, est un théologien actif du protestantisme libéral. André Gounel est né à Nîmes en 1933, devient pasteur en 1958, professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier de 1971 à 1998 et son doyen de 1975 à 1981. Il est en lien étroit avec l'Université Laval au Québec, traduit les œuvres du théologien Paul Tillich et présente au public la théologie du process avec son livre « Le dynamisme créateur de Dieu » aux éditions Fin d'Irène. Monsieur Gounel, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ces premiers mots vous conviennent, ou est-ce que vous auriez peut-être un apport sur...
Non, c'est tout à fait... Ça va tout à fait... c'est clair que le livre de théologie se vend beaucoup moins que le livre ésotérique ou les livres de spiritualité qui travaillent sur la psychologie religieuse, etc. On le comprend, la théologie c'est quelquefois aride, mais on le regrette parce que nous sommes dans un monde où court beaucoup d'idées fausses, d'idées caricaturales sur ce qu'est le christianisme, sur ce qu'est l'islam, sur ce qu'est le judaïsme, sur ce qu'est la religion en général. Et j'ai souvent rencontré, mais même chez des universitaires, cette idée que le théologien était quelqu'un qui commentait un sort de catéchisme tout fait, alors que c'est un monde d'une inventivité assez extraordinaire et d'une liberté, alors surtout en protestantisme, ça je le reconnais volontiers, mais aujourd'hui aussi en catholicisme, dont on n'a en général pas idée.
Donc nous allons explorer l'inventivité de votre dernier livre, voilà. André Gounel, Dieu encore et toujours. Alors, dans vos propos, vous faites référence notamment à parler de Dieu, et puis dans la quatrième de couverture, Patrick Van Dieren fait allusion aussi aux autres, hein, parler du Christ, parler de la foi, c'est pas parler d'ailleurs.
Non, c'est pas parler de la foi, c'est...
Penser la foi. Ouais. Mais comment est-ce que vous organisez ce nouveau titre avec ce précédent, parler de Dieu et avec les précédents aussi?
Oui. Ma réflexion et mon travail ont été commandés, orientés par un certain nombre de préoccupations assez précises, assez persistantes. Il y a la confrontation avec la culture, essayer de penser, d'exprimer la foi en fonction de la culture. Il y a là cette question de Dieu qui est une question qui m'habite, ce qui est assez normal pour un théologien, mais enfin, quelquefois, ils sont habités aussi par d'autres questions. Depuis très très longtemps, comment dire, comment arriver à dire Dieu ? Il y a aussi la question de... enfin, du dialogue entre les religions. Et puis, cette question du professeur de théologie que j'ai été, qu'est-ce que l'on fait du monde ancien ? Qu'est-ce que l'on fait des théologies anciennes ? On a un bagage théologique impressionnant et en même temps écrasant et en même temps insupportable.
Alors, vous parlez là d'une théologie qui s'est construite depuis les premiers conciles.
Oh, depuis les premiers conciles, oui, on pourrait même dire depuis le second siècle. Les premiers conciles sont du 4e, 5e, depuis le départ. Alors tout ça a orienté, organisé mon travail. Mais au fond, ce qui est fondamental, c'est ce que j'essaie de dire au début, tant bien que mal, ce sentiment, cette expérience que j'ai d'une présence qui est là, qui m'habite. Je ne l'ai pas toujours avec la même intensité. Il y a des moments où ça disparaît, il y a des moments de doute, il y a des moments de grande conviction, de grande certitude. Mais une présence qui est là, comment arriver à la penser ? Et là, je m'inscris un peu ma réflexion théologique dans une sorte de renversement qui apparaît à la fin du 18e, 19e siècle. La théologie classique, elle parle de l'être de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, l'être de Dieu ? Et puis, à la fin du 19e, il y a les grandes critiques de Kant, il y a Schleiermacher, qu'on est en train de découvrir en France, parce qu'il n'est traduit que depuis peu. Et la question devient, le théologien parle non pas de l'aide de Dieu, mais de la relation avec Dieu, de la manière dont il perçoit Dieu. Du coup, il sait que son discours n'est pas un discours absolu, que son discours ne doit pas avoir le poids du dogme ancien. C'est pas ce qu'il faut croire. C'est dire, voilà comment je crois en écoutant les autres, parce que ce qu'ils me disent peut m'amener à fléchir mon discours, et en sachant que peut-être le comment je crois aujourd'hui n'est pas exactement le comment on croyait hier et comment on croira demain, tout en pensant qu'on croit toujours, j'allais dire la même chose, dans le même être.
Alors, nous l'avons vu dans la petite introduction, vous vous êtes intéressé à la théologie du process. Est-ce que ce livre-là témoigne aussi de cette théologie, ou est-ce que vous avez essayé d'ouvrir à d'autres façons de penser cette relation avec Dieu ?
Alors là, la théologie du process n'est pas ma seule référence. Or, c'est vrai que mon livre sur la théologie du process est probablement celui de mes livres qui est le plus connu et le plus souvent cité. Mais j'ai aussi énormément travaillé un théologien germano-américain, Paul Tillich, moi, je crois plus marqué que la théologie du process. J'ai aussi beaucoup travaillé sur Albert Schweitzer, qui n'est pas seulement l'hôpital de l'Embarrainé, mais qui est un très grand penseur. Et ce qui serait l'accent, mais probablement commun à la théologie du process, à Paul Tillich et à Albert Schweitzer, c'est l'importance donnée à l'avenir. Il y a une parole dans l'Apocalypse qui dit « Dieu est celui qui a été, qui est et qui vient ». Et on trouve dans la pensée grecque ancienne, chez Platon, l'idée que Dieu a été, est et sera. Et dans la formulation grecque, à première vue, on sait tenter de dire c'est la même chose, mais dans la formulation grecque, il y a plutôt une sorte de permanence. Ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui sera, c'est ce qui est, ce qui a été. Tandis que dans la formulation biblique, il y a une rupture. Il est, il a été, il vient. Il y a un avenir, pas seulement un futur. Le futur, c'est ce qui découle de ce qui est. Futurus, c'est le gérondif du verbe être. L'avenir, c'est ce qui survient. Et alors cette idée de l'avenir de Dieu, ou de Dieu à l'avenir, elle est très forte chez Schweitzer. Schweitzer disait que On a transformé le christianisme, la prédication de Jésus qui annonce le royaume, qui annonce un monde qui vient. Le christianisme l'a transformé en religion archéologique. On célèbre ce qui s'est passé au 1er siècle de notre ère, en Palestine, la croix, la résurrection. Ce n'est pas pour en nier l'importance, mais c'est pour dire qu'on s'est tourné vers le passé, et que, alors que Jésus poussait à ce monde nouveau qui vient. Il y a chez Paul Tillich cette idée de Dieu comme... alors, les traductions sont très difficiles dans ce domaine-là. Puissance d'être, mais pas puissance au sens de celui qui domine, de celui qui dirige, mais de celui qui toujours ouvre l'être à autre chose. Et la théologie du process, c'est sa grande idée. Le temps de Dieu, c'est surtout l'avenir, c'est pas tellement le passé et le présent, même s'il est dans le passé et le présent. Alors ça m'a amené à dire, par exemple, mon chapitre final ne veut pas être une conclusion, parce que Dieu, on ne peut pas conclure. Si on conclut, ce n'est pas Dieu.
Exactement.
Et on ne peut pas dire le dernier mot.
Vous préférez user d'une confession de foi plutôt que d'une conclusion.
Une confession de foi. C'est ce qui explique aussi le titre « Encore et toujours, encore ouais. » parce qu'il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas de passé, pas de présent. Mais toujours, encore, toujours, à nouveau. Pas encore et toujours le même, encore et toujours à nouveau. Il y a toujours du nouveau à découvrir. Et on parlait d'invention, cette inventivité de la théologie. Il y a une inventivité constante de la foi à Dieu qui, d'une certaine manière, à travers le récit biblique, il s'invente lui-même. Et il nous invente nous-mêmes.
Alors, André Gounel, nous l'avons vu, vous êtes théologien, universitaire, chercheur, vous intéressez à des savants de la théologie et de la foi et de Dieu, et pourtant, vous nous dites que vous continuez à balbutier. Ouais. C'est quand même incroyable, ça. Vous ne pouvez pas faire mieux que balbutier au point où vous en êtes, alors que dire?
Oui, c'est vrai, je balbutie et je crois que quand on parle de Dieu, on ne fait jamais que balbutier, et que dans un sens, il vaut mieux en avoir conscience, parce que Dieu ne s'enferme pas dans un discours, Dieu ne s'enferme pas dans une logique. Il est toujours ailleurs, au-delà. Il est beaucoup plus ce qui bouscule les discours, ce qui bouscule les logiques, que ce qui les fonde. Et alors, quelqu'un qui dirait, je ne sais plus, on raconte dans, je ne sais plus où j'ai lu ça, d'un théologien de la fin du 19e qui était content parce qu'il avait 1500 fiches sur Dieu. Alors voilà, il avait tout. Finalement, ces fiches, ce Dieu qu'il avait mis en système, c'est plus Dieu, c'est une idole. C'est une image. C'est une image qui divinise. Et ça devient une quasiment un substitut, une caricature de Dieu qui, au lieu d'ouvrir des perspectives nouvelles, enferme dans une révélation, dans une dogmatique.
Alors, vous êtes en train de nous dire que finalement, vous essayez d'approcher l'insaisissable en permanence dans ces livres. Mais moi, j'ai aussi lu ce livre comme un livre qui instruit, qui apprend, qui documente. Et comme Jésus, et peut-être comme tout bon pédagogue, vous commencez par des paraboles.
Je commence par des paraboles.
Trois paraboles. Alors voilà, vous essayez d'approcher différentes façons que nos contemporains, finalement, ont cette perception presque, peut-être pas spontanée, mais en tout cas instinctive de Dieu.
Ce sont trois paraboles qui apparaissent dans les années 70, au moment où il y a tout un débat dans les pays anglo-saxons sur ce que ça veut dire parler de Dieu. Et alors les paraboles, la première est celle de deux explorateurs qui sont dans une clairière, et qui, une clairière magnifique avec des fleurs, avec des ruisseaux, avec des beaux arbres, et ils se disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de cette
jardin,
clairière,
de cette clairière?
Alors il y a un explorateur qui est athée, agnostique ou sceptique, et qui dit non, il n'y a personne, puis l'autre qui est croyant. Alors ils essaient de vérifier, ils essaient de mettre des enregistreurs,
croiser le jardinier finalement.
De trouver le jardinier.
Ouais.
Et ils ne trouvent jamais. Et le croyant dit toujours, ah ben oui, mais alors on ne le voit pas, mais c'est un jardinier invisible, on n'entend pas, mais c'est un jardinier qui ne s'exprime pas. Et à la fin, l'autre explorateur lui dit, mais au fond, qu'est-ce qui nous distingue vraiment ? Un jardinier invisible, inaudible, imperceptible, et pas de jardinier du tout, quelle est la différence? Alors ça, c'est les spécialistes reconnaîtront les grandes philosophies du langage autour de Wittgenstein et de son école. Il y a une seconde parabole qui parle d'un enfant qui est malade des yeux, qui ne peut pas supporter la lumière, qui est donc dans une pièce sombre avec une toute petite bougie, et sa mère qui s'occupe de lui. Et sa mère lui parle du soleil qui est d'or, et il ne peut pas comprendre, il est un peu comme dans la caverne de Platon, il est dans l'obscurité. Mais il croit parce qu'il a confiance en sa mère. Et il a quand même une idée parce que et la petite lumière de la bougie qui lui donne l'idée. Et là, on a une démarche qui est celle du catholicisme classique, l'analogie entre la bougie et la lumière, même si la lumière du soleil est mille fois supérieure, quand je dis mille fois, je veux dire des millions de fois supérieure à celle de la bougie, et puis le témoignage de la mère, c'est-à-dire de l'Église. Et puis, troisième parabole, c'est deux voyageurs qui sont sur une route, qui font route ensemble, qui cheminent, qui marchent l'un à côté de l'autre, sur un chemin qui est tantôt facile, tantôt difficile, tantôt pénible, tantôt agréable. Et pour l'un des voyageurs, le voyageur croyant, le chemin conduit vers une cité céleste, vers une cité au bout de la route. L'autre ne le pense pas. Alors ils sont là, tous les deux, ils vivent les mêmes choses, ils vivent ensemble, mais l'un estime qu'il y a quelque chose au bout de la route et l'autre pas. Parabole qui me plaît plus que les deux autres parce que précisément il y a une progression, il y a une marche en avant, il y a quelque chose qui se passe. Les deux autres sont assez statiques comme parabole.
Il y a un mouvement.
Il y a un mouvement, oui. Par contre, l'inconvénient de ces paraboles, je ne sais pas comment le traduire par une image, mais il me semble que l'expérience de la foi, que l'expérience du Dieu biblique, c'est à la fois le Dieu qui est en nous et qui est hors de nous, qui est à la fois l'autre et l'intime. Et qu'il faut conjuguer constamment ces deux choses dans le discours. Et c'est là où on ne peut que le balbutier, parce qu'il y a deux éléments qu'il faut mettre ensemble, qui sont l'un et l'autre fondamentaux. Dieu n'est pas ailleurs, il n'est pas dans un autre monde, il n'est pas dans le ciel, il est en moi, le royaume de Dieu est en vous, dit Jésus dans une de ses paroles, mais il n'est pas moi, il est autre chose que moi. Il y a en moi autre chose que moi. Il y a en moi quelque chose qui me dépasse. Alors la difficulté, c'est de découvrir en moi et en même temps de ne pas se l'approprier, de ne pas s'identifier.
Oui, de ne pas s'en contenter peut-être aussi. Alors, il va y avoir 6 chapitres qui suivent ce premier d'introduction finalement avec ces images des paraboles. 6 chapitres qui sont pour moi 6 éclairages sur cet objet de travail qu'est Dieu, comme vous le dites, en questionnant sur ce qui pourrait sembler être des évidences pour les chrétiens contemporains. Alors contemporains, oui, mais vous commencez par cet échange entre deux amis intellectuels. Et là, vous parlez de Charles Wagner et de Ferdinand Buisson. Là, on est dans les années 1918 pour l'un. Charles Wagner est mort en 1918 et Ferdinand Buisson en 1932.
En fait, leur échange est de 1904.
1904, voilà, d'accord. Et finalement, vous posez la question, mais finalement, est-ce que croire en Dieu, est-ce que c'est comparativement plus que celui qui est athée, qui n'intègre pas sa Dieu en lui ou en relation avec lui?
C'est un dialogue assez, moi, que j'ai trouvé très prenant entre ces deux hommes. Ferdinand Buisson est le fondateur de l'école laïque, c'est un philosophe de culture protestante. Il s'est d'ailleurs toujours déclaré protestant libéral, même quand il a mis en cause, quand il s'est interrogé sur l'existence même de Dieu. Enfin, il était à la fois libre penseur et protestant libéral. Charles Wagner était pasteur à Paris, pasteur libéral. Et dans ce dialogue, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais vécu quelques années auparavant avec un ami franc-maçon athée. Nous avions un certain nombre d'idées, de valeurs, d'engagements tout à fait communs. On s'entendait sur un tas de choses. Puis il y avait ça, cette question de Dieu qui nous séparait dans un parfait respect d'ailleurs l'un de l'autre, mais qui faisait problème. Et c'est la question que Buisson pose à Charles Wagner en disant au fond... qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui sépare un christianisme éclairé d'une, on pourrait dire, d'une libre pensée, comme on l'entendait au début du XXe siècle, respectueuse du spirituel? Il ne reste que Dieu pour nous séparer. À quoi Wagner répond tranquillement, c'est quand même plutôt un beau reste. Et la question, effectivement, je trouve, est une question qui se pose. Est-ce que quelquefois, nous ne sommes pas en train d'essayer de dire dans un langage religieux ce que d'autres disent dans un langage profane ? Question qu'on peut lire d'ailleurs aussi chez Bonhoeffer, enfin, plus tard. Alors, Wagner, et je suis assis de cet avis, souligne que dire Dieu, c'est dire aussi ce qui peut être rupture dans la logique humaine, ce qui peut être une brèche dans l'existence, ce qui peut être précisément une advenue qui soit autre chose qu'un futur, quelque chose qui surgit, quelque chose ou quelqu'un qui surgit. Qu'il y a donc... pas forcément un désaccord dans les engagements terrestres, mais cette impression d'une... voilà, il y a une brèche, il y a une importance donnée à l'événement au sens de ex ventus, c'est-à-dire quelque chose, ventus, c'est ce qui advient et qui est ex de l'extérieur, pas seulement un avènement.
Nous retrouverons André Gounel pour la deuxième partie de son intervention qui continue la lecture et le commentaire de son Dieu encore et toujours. Au revoir.